Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Tech & Co, la quotidienne, comme promis, pour terminer en beauté cette semaine, nous allons nous pencher sur notre fierté nationale dans le domaine de l'IA, notre pépite IA. Il s'agit de Mistral, avec cette interview d'un des porte-parole de Mistral qui est avec nous, c'est Timothée Lacroix. Je vous rappelle que nous sommes ici à l'AI Now Summit qui a eu lieu aujourd'hui. Timothée Lacroix, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous accorder votre temps, parce que c'est vrai que c'est une journée compliquée pour les trois cofondateurs de Mistral et pour toute l'équipe de Mistral. D'abord, peut-être un mot sur votre poste chez Mistral. Vous êtes CTO, vous êtes en quelque sorte le patron de la technologie, des modèles. Vous êtes l'un des trois cofondateurs de Mistral. Avant de rentrer rentrer dans le détail de cet événement, peut-être un mot sur l'histoire de Mistral. 3 ans à peine, vous êtes aujourd'hui un acteur incontournable dans le domaine de l'IA. Comment vous est venue cette idée de créer Mistral, sachant que vous venez de chez Meta, je crois, et de faire.
C'est ça. Donc, il y a 3 ans, donc, je connais Arthur et Guillaume depuis plus de 10 ans.
D'accord.
Je connais Arthur depuis mes études et j'ai travaillé avec Guillaume à Meta pendant plus de 6 ans. On avait besoin d'entraîner des modèles dans le cadre de notre travail avec Guillaume. Et Guillaume et Arthur se sont aussi rencontrés au moment où l'IA a vraiment pris son vol.
Ouais.
On avait envie de faire quelque chose à nous.
On est en quelle année ? On est en
2023.
2023,
2023,
d'accord.
Donc même décembre 2022. Et donc, on se dit, finalement, pourquoi chercher des startups compliquées quand on pourrait appliquer ce qu'on sait faire, qui est entraîner des modèles. C'était ce qu'on savait faire tous les trois. Et donc, on a lancé Mistral.
Alors, la légende dit que c'est vous qui avez trouvé le nom Mistral. C'est vrai ou pas ?
C'est vrai. Il se trouve que c'est pas très original comme nom. On le partage avec pas mal d'équipements militaires, pas mal d'ascenseurs et pas mal de boîtes de logistique. Mais effectivement, après 2 jours à tergiverser sur des noms, j'ai tranché.
D'accord. Parce qu'il y a aussi I et A dans Mistral. C'est un rapport ou c'est le hasard ?
Un heureux hasard.
Le hasard,
voilà.
Ok.
On a vérifié que c'était un nom qui était compréhensible en anglais, qui se prononçait en anglais. On a confirmé que ça sonnait pas trop bizarre. Et ensuite, on s'est dit on y a assez passé de temps.
Que de choses sont passées durant ces 3 ans. C'est incroyable. Quelles sont pour vous les dates importantes de Mistral? Alors évidemment, il y a les levées, etc. Il y a l'argent. On va y revenir parce que c'est très important dans le job que vous faites, dans l'activité que vous avez. Quelles sont les dates, les checkpoints importants de Mistral sur ces 3 ans, à votre avis?
Alors évidemment, le début. On a effectivement annoncé la levée et surtout, on a eu la confirmation des premiers employés qu'ils allaient nous rejoindre et qu'on pouvait commencer à travailler. Bon, ça, c'est effectivement un moment fort. Les premiers modèles qu'on a sortis avec des façons de déployer des modèles sur Internet un petit peu originales à travers des liens torrent, c'était un pari. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Il y avait une véritable ébullition au niveau de l'équipe. C'était des nuits courtes. Donc le fait que c'était un succès immédiat, c'était effectivement des moments forts.
Parlait pas encore de ChatGPT à l'époque.
On en parlait.
On en parlait à l'époque. ChatGPT, c'était 2023.
C'était fin 2022, début 2023.
Fin 2022, donc ouais. Vous avez lancé.
On était 6 mois après.
Voilà, c'est ça.
Et c'est vrai qu'en fait, ces premiers modèles open source commençaient à être comparables en termes de ce qu'on pouvait faire sur des cas simples avec ChatGPT. Donc c'était la comparaison, c'était open source, n'importe qui pouvait l'utiliser. Donc ça, c'était effectivement un moment fort.
Ouais.
Après, quand l'entreprise grossit, c'est des moments différents. C'est par exemple des releases de modèles comme la voix, une nouvelle modalité, c'est toujours intéressant. On peut faire soudainement beaucoup plus de choses. Et là, effectivement, des grands événements comme ça où on commence à cumuler de plus en plus d'annonces, des beaux partenariats, ça devient important aussi.
Alors, on va revenir évidemment sur les Now Summit que vous animez aujourd'hui. Mais vous êtes CTO. Quel est votre job en fait chez Mistral ?
Alors c'est évidemment un job qui a pas mal changé au cours des 3 dernières années. La séparation des fonctions entre Guillaume, Arthur et moi était assez facile parce que la séparation science et technique était déjà une séparation qu'on avait un peu à méta avec Guillaume.
D'accord.
On travaillait tous les deux sur des modèles, mais j'étais plus intéressé par la machine qui nous permettait d'être efficace, d'avancer. Et donc j'ai pris la direction de ces équipes techniques. Les équipes techniques à Mistral, je les considère en 4 grandes sections et j'en gère directement 3. Donc il y a le produit, donc Vibe, Studio, tout ce qui permet de servir nos modèles et de les déployer. Il y a aussi l'infrastructure de la recherche qui est le monde d'où je viens, donc tout ce qui permet aux chercheurs de faire leur travail et d'être de plus en plus efficaces avec une équipe qui grandit. Il y a aussi les Forward Deployed Engineers, donc les personnes qu'on va emmener chez nos clients et qui sont des ingénieurs, mais qui font le last mile d'adaptation. Ouais,
parce que c'est votre particularité, on pourra peut-être en parler.
Exactement.
Par rapport aux géants OpenAI, etc., où on achète des choses sur étagère. Vous, c'est du fine-tuning, c'est la joaillerie. Vous vous adaptez en fait à chaque entreprise, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
C'est ça. Et récemment, il y a aussi le volet infrastructure et data center qui s'est rajouté.
Vous êtes l'un des plus discrets des trois. C'est une volonté, c'est votre personnalité. Bon, déjà, merci d'avoir pris le temps pour qu'on puisse vous découvrir un peu plus longuement.
Je dirais que ça fait largement partie de ma personnalité et c'est vrai que ça me permet aussi d'avoir plus de temps pour faire mon travail tranquillement.
D'accord.
Y a beaucoup d'équipes à gérer, beaucoup de choses à faire. Donc,
Très bien. Alors, un mot quand même sur ce AI Now Summit qui est le premier. Ça va devenir un rendez-vous récurrent en fait, cet événement.
Alors on espère, j'imagine en voyant la salle que c'est un succès et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un cycle d'annonces un peu annuel comme ça.
D'accord.
Avec des nouvelles technologies. C'est un peu classique. Oui. Dans la tech d'avoir, ouais, son rendez-vous annuel où on fait nos annonces pour les développeurs, pour les partenaires industriels, tout le monde peut se rencontrer, c'est classique.
Donc l'idée là, on voit, il y a énormément de monde. Ce soit quoi ? C'est vos partenaires qui sont là ?
Alors,
il y a des journalistes aussi, bien sûr. J'en ai vu quelques-uns.
Le but, c'est aussi d'animer un écosystème.
D'accord.
Donc, il y a nos clients, il y a nos utilisateurs et il y a aussi tout l'écosystème de l'AI en France et en Europe. Nos partenaires commerciaux aussi qui nous fournissent du matériel, qui peuvent venir interagir, réagir à nos annonces, parler.
Vous avez annoncé pas mal de partenariats prestigieux avec des industries européennes, parce que on sent que l'IA à l'industrie, c'est un gros message que vous voulez faire passer lors de ce AI Now Summit. EDF, Airbus, BMW, alors des entreprises européennes, hein, des pépites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous créez ces partenariats avec ces boîtes-là ? Peut-être nous donner des exemples aussi d'intégration d'IA, par exemple chez Airbus ou BMW ou EDF ?
Alors, donc, comment on crée ces partenariats ? C'est des longues discussions de relations commerciales, mais on commence toujours par des proof of concept. Donc, on va s'intégrer dans leurs équipes, ouais, on va passer beaucoup de temps à comprendre leur business. Airbus, c'est quand même une énorme organisation, il faut comprendre quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'on peut montrer comme valeur. Une fois qu'on a fait ça, donc on fait un pilote, si ça se passe bien, et dans le cas d'Airbus, ça s'est bien passé, et ben on commence à travailler sur un partenariat beaucoup plus long terme. C'est des partenariats qui sont fantastiques pour nous parce que ça nous permet de nous projeter sur du temps long, ça nous permet d'engager des projets beaucoup plus ambitieux, de co-développer des produits, et donc ça nous permet beaucoup de choses. Des exemples, alors, dans le monde industriel, surtout dans des entreprises grosses comme Airbus, il y a un des sujets qui est la documentation technique. Il faut imaginer des documents qui décrivent les tailles des boulons.
Et qui représentent des téraoctets de données.
Et aussi une quantité de travail humain fou, parce que avec à chaque fois que quelqu'un fait un changement, il faut aller vérifier dans tout le reste de la documentation que ce changement est bien reproduit, qu'il est bien compatible, que tout reste compliant.
Surtout donc, dans une industrie comme Airbus, qui est hyper réglementée, où les normes de sécurité sont dingues.
Heureusement.
Ouais, heureusement d'ailleurs. Ouais.
Et donc là, c'est un des cas d'application un peu évident où on peut automatiser une partie de la recherche, on peut raccourcir cette chaîne et trouver immédiatement toutes les implications de ce changement.
En gros, je veux le boulon 26, ou savoir quelle est son évolution, etc. Je vais avoir une espèce d'interface.
Voilà.
Simple.
Exactement, et on essaie de s'intégrer aux outils d'Airbus parce qu'en fait, on arrive, il y a un écosystème, c'est une boîte qui a déjà un IT installé avec plein de choses. On veut s'intégrer au plus proche pour qu'ils soient capables, vraiment, quand ils font un changement, d'avoir naturellement toute la suite et les implications, est-ce que ça marche, pourquoi, et produire la prochaine documentation.
EDF, pareil,
Alors, EDF, je pense que ça va dépendre pas mal de ce qu'on fait avec eux.
Ouais.
De ce que j'imagine, il y a aussi des documentations techniques sur lesquelles ça sera utile. Après, il faut aussi voir que là, je parle des sujets techniques et vraiment industriels. Mmh. C'est les sujets qui ont tendance à m'intéresser. Il y a en fait dans toutes ces grandes organisations une énorme partie corporate et juste comprendre où en est la boîte, comment évolue le partage de la connaissance sur lequel les outils d'IA sont quand même toujours efficaces.
CMA-CGM aussi, qui est d'ailleurs le propriétaire de BFM Business. Il y en a d'autres. Un BMW, un constructeur auto. Quel type de partenariat vous nouez avec eux ? C'est alors, toujours là aussi de la documentation ou c'est autre chose ?
Avec BMW, y a un nouveau volet que je trouve très intéressant qui vient avec l'acquisition de EMI AI, qui est de la simulation de car crash. Et donc ça, on est vraiment dans augmenter la vitesse d'itération des ingénieurs. Un ingénieur qui change une porte sur une voiture, il va devoir ensuite faire tourner des simulations pour vérifier que ça n'impacte pas la
sécurité.
Pour
voir comment elle va
se déformer au cours
d'un crash test.
Ce que permet EMI, c'est de largement raccourcir le travail entre la phase de design où on dessine la nouvelle porte, on l'intègre dans le reste,
d'accord,
et le résultat de la simulation du car crash.
C'est-à-dire que vous simulez finalement le crash avant de l'implémenter dans la voiture ou...
Alors,
essayer
ça,
de comprendre comment elle va évoluer.
Ça, ils le font dans tous les cas. Par contre, ça peut être des simulations qui sont très longues. Donc, d'abord, il y a le dessin industriel. Ensuite, il faut réimplémenter le dessin industriel un peu différemment pour les logiciels de simulation. Et parfois, c'est du travail compliqué. Et ensuite, on fait tourner une simulation qui peut être très intensive en calcul. On peut raccourcir toute cette chaîne et arriver à une simulation qui sera peut-être moins précise, mais qui va permettre d'itérer beaucoup plus vite. Une fois qu'on a trouvé quelque chose qui a l'air bien, on peut faire tourner la vraie simulation et avoir une voiture qui soit sécuritaire.
Intéressant tout ça. Comment ça se passe quand vous travaillez avec BMW, Airbus ? Vous détachez des équipes de Mistral qui vont bosser là-bas ? Comment ça se passe ?
C'est ça, donc c'est un modèle qu'on appelle Forward Deployed Engineers. On a tout un département qui est proche du département commercial et proche des équipes engineering. C'est des experts de l'application de l'IA, donc il y a plein de domaines. Il y a le déploiement de l'IA qui est plutôt un problème d'infrastructure. L'expertise de savoir dans un domaine comme ceux de BMW, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et aussi des experts même plus scientifiques sur l'entraînement de modèles. On va vraiment les intégrer selon les projets avec les clients. Ils vont travailler avec leurs équipes, ils vont les éduquer et le but à terme, c'est vraiment de passer un peu la main sur tous nos outils à ces entreprises pour qu'elles puissent en prendre le contrôle.
Voilà, et puis qu'après elles n'aient plus besoin de vous finalement.
C'est ça
hein. C'est intéressant tout ça.
Et c'est toute une chaîne entre nous, nos FDI, ensuite ça peut être des intégrateurs système et ensuite nos clients.
Un mot aussi sur le message ambiant qu'on a entendu pendant très longtemps que l'IA allait être destructrice d'emplois. On peut rebondir peut-être sur le sujet qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire que finalement, peut-être que des ingénieurs qui travaillaient sur la simulation de crash, etc., feront peut-être autre chose ou n'auront plus de métier parce que l'IA va peut-être les remplacer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un changement de paradigme. Il y a encore quelques mois de cela, que ce soit Arthur Munch, le cofondateur de Mistral, mais aussi Sam Altman ou le patron de Google, disait qu'effectivement, il y allait avoir de la casse au niveau social, au niveau des emplois, à cause ou grâce à l'IA. On a l'impression qu'il y a une machine arrière qui est faite. Même Arthur Munch l'a dit récemment. Sam Altman l'a dit il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, que finalement, ça n'allait pas aller aussi vite que ça. Qu'est-ce qui a fait que, à votre avis, il y a eu ce changement de vision ?
Alors,
est-ce que ce n'est pas aussi pour faire peur, pour moins faire peur aux gens ?
Alors, l'IA, c'est un nouvel outil. Avec tout nouvel outil, c'est aussi un outil qui change très vite. Avec tous les nouveaux outils, il y a certains métiers qui changent. Il y a des adaptations à faire. C'est un changement qu'on a beaucoup vu dans le domaine du software. Je pense que c'est intéressant de prendre le domaine du software pour avoir un peu une vision 6 mois ou 1 an en avance de qu'est-ce qui peut se passer dans d'autres métiers. On est passé d'un métier d'artisan où vraiment on connaissait chaque ligne de code, on écrivait chaque caractère, à plus un métier de manager où on commence à poser des questions et ensuite essayer de comprendre si le travail était bien fait. C'est quelque chose qui peut se reproduire dans plein d'autres domaines, typiquement sur des simulations de crash. Ben, au lieu d'avoir vraiment tout le travail de chaque étape, on va plutôt guider les systèmes et on va pouvoir revoir le travail de plein d'agents. L'idée, c'est d'aller plus vite.
D'accord. Mais concernant ma question sur le fait que l'IA peut être destructrice d'emplois et que finalement, les porte-parole de toutes ces grandes boîtes IA, Arthur Munch y compris, reviennent sur cette décision en disant que bah, finalement, on a été un peu trop pessimiste, ça ne va pas aller assez vite. Quel est votre... Enfin, ça ne va pas aller aussi vite que ça. Mais et vous, votre point de vue, alors, en tant que CTO de cette boîte ?
C'est toujours très difficile de donner des estimations précises de temps sur les changements. Ça va beaucoup dépendre des métiers.
Mais pour vous, il y aura un impact majeur ou pas ?
Ça va vraiment dépendre des métiers. Typiquement, des métiers manuels, il va y avoir un besoin que le hardware soit là, que des robots arrivent. Il y aura des questions de rentabilité aussi. En fait, si les calculs coûtent plus cher qu'un employé, il n'y aura pas de raison d'en placer. Donc, selon les tâches, ça va changer. Moi, le métier de développeur aujourd'hui a complètement changé.
Parce qu'on disait, les cols blancs vont disparaître, etc. Il y a eu d'ailleurs des boîtes majeures qui ont décidé de se séparer de centaines de personnes et qui finalement après ont fait machine arrière. Il n'y a pas eu une espèce d'emballement à votre avis concernant ce sujet ?
Alors d'emballement, je ne sais pas.
Ou de précipitation peut-être.
Alors précipitation peut-être, c'est toujours, encore une fois, quand on fait des annonces comme ça sur le futur d'une technologie qui change aussi vite, moi je trouve ça toujours risqué. Surtout que la mise en place de ces technologies dans les entreprises, en fait, se heurte à plein de choses que les gens ne comprennent pas nécessairement. Il y a plein de notions de droits d'installation dans les systèmes qui, c'est pas des blocages techniques. Par contre, ça ralentit l'adoption et ça fait que, certes, les systèmes pourraient faire plein de choses, mais ça va prendre du temps de les intégrer. Et donc, il y a un disconnect énorme entre ce qu'on voit qu'on peut faire en laboratoire et ensuite le temps d'adaptation dans l'entreprise.
J'aimerais qu'on revienne et qu'on prenne un peu de recul sur votre activité et sur les besoins que vous avez aujourd'hui. On a bien compris qu'aujourd'hui, votre besoin principal, c'est l'électricité, c'est l'énergie. Mmh. On est d'accord. C'est ce qu'Arthur Mensch a expliqué lors de son audition à l'Assemblée nationale il y a quelques jours de cela, en proposant un électrochoc un peu à l'opinion publique, finalement, en disant, si on veut avoir un vrai savoir-faire souverain, et ne pas se faire manger par les Américains, il va falloir qu'on ait de l'énergie, de l'électricité. C'est ça la clé, en fait ?
C'est la ressource clé pour nous. Alors, ce n'est pas la seule ressource clé.
Après, il y a les processeurs, bien évidemment, il y a les talents.
Donc, il y a toute une chaîne de valeur pour arriver à de la capacité de calcul. Cette chaîne de valeur, elle commence par l'électricité et le site, avec des contraintes en utilisation d'eau, avec les voisinages et toutes les contraintes qu'on connaît. Oui. Il y a ensuite toutes les fournitures à l'intérieur du data center avec potentiellement des contraintes de supply chain sur la mémoire, comme on a vu récemment. Il peut y avoir des tensions sur la chaîne électrique. Tout le domaine, vu la croissance extrêmement rapide, toute la chaîne logistique du domaine est en tension. La chance qu'on a en Europe...
C'est le cas de le dire, en tension.
Exactement. La chance qu'on a en Europe, c'est qu'on a en France une grille qui est extrêmement stable et extrêmement bas carbone. On a dans les pays nordiques...
Le surplus énergétique en plus.
Voilà. Et donc, c'est un endroit complètement naturel où nous installer.
Mais malgré tout, si on fait des projections, il va falloir qu'on investisse dans la production d'énergie encore aujourd'hui.
Alors, qui étaient des plans qui étaient déjà prévus pour la réindustrialisation de la France. Et effectivement, l'accélération un peu imprévue du domaine de l'IA ça précipite ça. Donc, le renforcement de la grille européenne était déjà prévu et effectivement, il va falloir accélérer.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre demande, c'est au pouvoir public d'investir dans des infrastructures pour créer de l'énergie, c'est ça ?
Alors, En fait, c'est surtout un changement de façon de penser. L'énergie en Europe est une ressource stratégique. Il faut réfléchir à son allocation. Qui l'utilise, pour quels usages et à qui ça profite.
On est paré pour ça, à votre avis ? Parce que là, le calendrier, malgré tout, est assez serré, non ? Enfin, quand on voit le temps qu'il faut pour sortir de terre une centrale nucléaire, on a des exemples qui sont quand même assez lourds en France. Comment peut-on faire, en fait ?
Alors, sur nous, notre plan de développement de data center en Europe, je ne suis pas trop inquiet. Et après, on peut aussi sortir d'Europe pour développer des data centers. On verra un peu où la croissance nous mène.
J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu de souveraineté, parce que, évidemment, c'est un sujet un peu tarte à la crème, mais qui, dans ce contexte économique, géopolitique, de tension internationale, prend tout son sens, et vous en êtes un acteur important. J'aimerais aussi qu'on parle d'argent, parce que même si vous levez des milliards, en France, l'échelle, c'est des milliards, aux États-Unis, c'est des centaines de milliards. Comment faire, en fait ? Est-ce que, malgré tout, Mistral va être assez puissant pour ne pas se faire absorber par les géants américains qui ont des crédits quasiment infinis. Quelle est la stratégie? Est-ce que vous êtes plutôt rassuré sur ce qui va se passer ou est-ce qu'il faut être vigilant quand même?
Alors, je suis quelqu'un d'un naturel assez, assez détendu. Je pense que ça demande aussi un peu ce côté-là de vivre une telle aventure.
On est d'accord que les échelles sont gigantesques.
Échelles sont gigantesques. Après, elles l'ont toujours été. Je trouve qu'on a fait un excellent travail et qu'on continue en fait de faire un excellent travail avec les ressources qu'on a. On progresse à une vitesse qui est différente parce qu'on s'adresse aussi à un monde différent. On s'adresse vraiment au monde de l'entreprise. C'est des partenariats qui mettent du temps à mettre en place, qui sont beaucoup plus stables. Et donc, on suit cette croissance. Aujourd'hui, je ne me sens pas limité ou inquiété par les gens américains. Ils font ce qu'ils font, ils font des choses très bien. Mais on fait nos choses à nous. Le partenariat avec EMI le montre. Il y a plein d'endroits où on peut innover. Donc typiquement sur EMI, on est devant sur des modèles de langue, d'audio ou d'OCR. Il y a encore plein de zones où on est meilleur et on se développe à la vitesse qu'on a.
L'argent, ce n'est pas le seul moteur en fait?
L'argent est un des moteurs très très importants.
Mais est-ce que, par exemple, c'est vrai que souvent on dit on a les meilleurs ingénieurs IA en France parce qu'il y a une culture, des mathématiques, etc., etc. Est-ce que ça suffit en fait pour dire, bah, écoutez, on a les talents, on a besoin de moins d'argent pour être comparable à ce que font les Américains ou pas?
Alors, si j'avais une baguette magique qui me donnait les mêmes ressources que nos compétiteurs américains, je serais très content de le faire, évidemment. Par contre, je pense que ce qu'on a réussi à faire et la force de Mistral, c'est qu'on a eu un timing un peu parfait. Effectivement, on a les bonnes ressources, les bonnes compétences en Europe. On a réussi aussi à motiver d'autres personnes sur notre stratégie de Palo Alto jusqu'à Singapour. Donc, il y a un véritable engouement. On n'est pas très loin en termes de temps derrière les Américains. Et en fait, ce delta de temps nous permet aussi d'être beaucoup, beaucoup plus efficaces et ça nous force un peu à nous concentrer sur la rigueur et à ne pas faire d'erreur.
On sent aussi, alors vous avez toujours été très B2B, mais il y a un virage B2B très fort. OpenAI aujourd'hui est une entreprise qui sert le B2B, mais aussi qui est très grand public de par l'adoption par des millions, des centaines de millions de gens de ChatGPT. Cette bataille est perdue, c'est pas la peine d'y aller. Alors, il y a le chat, bien évidemment, mais qui est beaucoup moins utilisé.
Alors, le chat qu'on a changé en Vibe.
Oui, en Vibe.
Qui, pour moi, est très utile. C'est important pour nous de garder les deux facettes.
Mais on est d'accord quand même que c'est une petite partie de votre offre.
Oui. Nous, on a très vite été vraiment concentrés sur les entreprises. Par contre, le fait d'avoir un produit qui soit pour les consommateurs directement, ça nous force à avoir une beaucoup plus grande qualité de produit, ça nous permet d'itérer beaucoup plus vite, ça nous permet
d'avoir
des retours.
En fait, c'est
exactement.
Ça d'accord.
Et on a un produit qui est de qualité tout à fait comparable, que moi j'utilise au quotidien sans problème.
Et qui est tout à fait correct par rapport à ce que font les... Vous allez voir un peu ce que font en tant que CTO, j'imagine. Allez voir Claude, ChatGPT, etc., Gemini.
Alors oui, je vais voir. Et c'est vrai que sur mon téléphone, moi, j'utilise le chat qu'on va devoir renommer. Et je ne m'en plains pas, ça fonctionne très bien.
L'idée aussi, c'est qu'on a l'impression que Mistral veut être une société qui englobe non pas que l'IA, mais toute la structure derrière, qui soit full stack. C'est ce qui a été annoncé d'ailleurs là aujourd'hui, le message d'Arthur Mensch et de vous-même. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez être un fournisseur de tous les maillons de la chaîne de l'intelligence artificielle?
Exactement, et ça rejoint un peu le côté souverain qui est presque un à côté. En fait, ce qui était important pour nous, c'était de donner le choix. Et en fait, le choix, quand on pense à toute la chaîne de valeur de l'IA, donc du data center à l'application finale, c'est effectivement, est-ce qu'on peut être sur une infrastructure souveraine? Est-ce qu'on peut être dans le cloud? Est-ce qu'on peut être on-prem sur nos propres machines? Ça, c'est un choix qu'on donne. Et c'est un choix qui est plus facile à donner une fois que nous, on fait aussi une partie de ce travail. Donc, avec les data centers, on complète l'offre de choix qu'on avait pour savoir quelle brique déployer où et comment.
Donc
on est les seuls à faire ça.
C'est quoi? C'est l'idée, c'est d'être totalement autonome sur ce segment de l'IA?
Sur, je dirais, tous les segments de l'IA. En fait, on donne à nos clients le choix total du contrôle et de la customisation dont ils ont besoin. Et c'est aussi pour ça que le produit est plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choix à faire, beaucoup de variations possibles. Mm-hmm. Et c'est là qu'interviennent aussi nos Forward Deployed Engineers.
Un mot sur la robotique. On l'a évoqué brièvement. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Est-ce que l'aventure robotique est importante chez Mistral?
Alors, je pense que les partenariats d'aujourd'hui le montrent. En fait, dès qu'on commence à parler au manufacturing, à l'industrie, il y aura des sujets de robotique parce que c'est des chaînes de production qu'il va falloir optimiser. Et donc, en ce sens, c'est très important pour nous. C'est aussi une façon de se lancer dans d'autres modalités. Donc, typiquement, la modalité vidéo pour nos modèles, c'est quelque chose qu'on peut développer aussi à travers la robotique.
La robotique, alors c'est un sujet tellement vaste. Quand on voit ce que font les Chinois ou Figure.ai avec des robots majordomes qui apprennent, effectivement, en regardant ce qui se passe, etc. Vous y croyez, vous, à tout ça? Alors, c'est presque une question un peu plus personnelle, finalement. Mais la robotique, c'est le prochain Eldorado, à votre avis, dans le domaine de la tech?
Alors, Eldorado, je ne saurais pas dire. C'est clairement quelque chose qui va marcher. Techniquement, je n'ai plus l'impression qu'il y ait de grosses barrières. En fait, toutes ces questions vont se jouer à combien ça coûte, pour quels usages. Et c'est vraiment ça qui va jouer et c'est à ça qu'il faut réfléchir.
Très bien. Petite question. Alors, l'été dernier, on a eu très peur parce qu'il y avait une rumeur qui disait que Apple était intéressé par Mistral. Il y a prescription maintenant. Est-ce que il y a eu des échanges avec Apple à l'époque?
Alors,
ou c'était des rumeurs?
Quantité de rumeurs que je ne commenterai pas. Il y en a un peu tout le temps.
Voilà, il y a prescription finalement. C'est du passé.
C'est l'avantage de mon rôle de directeur technique. Je peux laisser passer un peu ces questions. C'est des rumeurs comme tant d'autres.
Mais le fait d'être sollicité comme ça par des boîtes américaine, c'est gratifiant. Il y a aussi une notion, de responsabilité en se disant il faut rester européen, il faut rester français. Ça fait partie aussi de votre réflexion, tout ça?
Alors, c'est des questions qu'on peut se poser, mais en fait, c'est vrai que de toute façon, c'est des acteurs à qui on parle aussi sur des sujets commerciaux. C'est des acteurs qui cherchent à diversifier leur stack technologique comme tous les autres. Et donc, on peut se parler pour des relations commerciales.
Très bien. Eh bien, Timothée, merci pour ce temps. Merci pour toutes ces précisions, de nous avoir présenté cet AI Now Summit. Le prochain aura lieu quand? On sait déjà ou pas?
Alors, j'aimerais que ce ne soit pas fin mai, parce que ça impose, ça impose un rythme de travail un petit peu difficile, mais j'imagine quelque part l'année prochaine.
Très bien. Bah, en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous, pour Tech & Co en ce jeudi soir. Merci.
Rappelons
que vous êtes CTO de Mistral. Merci beaucoup, Timothée Lacroix.
Merci beaucoup.